Et à la une en Israël, Blaise avec vous, on va parler sécuritaire maintenant en Israël avec votre invité que je vous laisse le soin de nous présenter si besoin était bien sûr.
Bonjour Raphaël Jérusalmi.
Bonjour.
Vous êtes ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Nous entrons dans le 39e jour de guerre depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas. Alors pour commencer avec vous, Raphaël Jérusalmi, quelle est la situation actuellement dans la bande de Gaza?
Eh bien, pour l'instant, nous continuons dans un élan très très positif de frapper toutes les cibles selon le plan original, donc tout se passe comme prévu, et nous en sommes au stade du morcellement du nord de Gaza en différents périmètres qu'on va sécuriser les uns après les autres, chaque périmètre demandant une façon de combattre différente selon que c'est un endroit urbain très dense comme une casbah, selon que c'est un quartier résidentiel, une zone industrielle, et surtout afin de séparer bloc par bloc les différentes brigades du Hamas pour pas qu'elles ne puissent coordonner leurs actions. Elles sont donc isolées et chaque endroit est sécurisé. Dans le même temps, une préparation est entamée de la poursuite de l'offensive vers le sud de Gaza. On prépare donc la deuxième grande partie de la guerre qui sera de refaire au sud ce qu'on est en train de faire au nord avec, pour l'instant, une pression qu'on met spécialement sur le quartier général du Hamas sous l'hôpital Shiva, une pression de cocotte minute, oserais-je dire, dans l'espoir que soit les terroristes paniquent, soit ils se rendent, soit ils nous offrent des otages en échange d'une accalmie. Donc c'est une histoire de pression pour l'instant qui est appliquée sur les terroristes.
Depuis le début, Israël garde la même ligne, c'est éliminer complètement le Hamas, c'est l'objectif. C'est réalisable prochainement?
Oui, c'est réalisable, mais pas prochainement, ça va prendre des mois. Et il s'agit évidemment de l'éliminer complètement, c'est impossible, car il y a le Hamas est aussi présent au sud du Liban, il est présent en Judée-Samarie, il sera probablement après cette guerre présent dans le Sinaï peut-être, et puis aussi à Paris ou Bruxelles. Donc on ne peut pas le supprimer, mais ce qu'on peut faire, c'est s'assurer qu'il ne revienne pas au pouvoir à Gaza. C'est libérer Gaza du joug du Hamas. Ça, c'est l'objectif, et ça, c'est tout à fait faisable avec l'instauration d'un régime complètement différent et pas évidemment aussi tyrannique et terroriste que celui-ci.
Justement, au-delà du Hamas, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit samedi vouloir autre chose que l'autorité palestinienne actuellement présidée par Mahmoud Abbas à Gaza. Quelle est l'envie réelle du gouvernement israélien?
Bien, il y a une blague qui court ici en Israël que le jour d'après, justement, d'après cette guerre, on n'est pas sûr que M. Abou Mazen se voit encore là, vu son âge, et que M. Benjamin Netanyahou le soit également, vu ses problèmes au niveau politique. Donc, le jour d'après, c'est quand même loin. Mais dans l'ensemble, effectivement, le Premier ministre israélien a mis de côté l'option selon laquelle Gaza retournerait sous le giron de l'autonomie palestinienne, comme c'était le cas avant 2007, avant l'arrivée du Hamas au pouvoir. Ce rejet qu'il a exprimé n'est pas du tout accepté par les Américains, par exemple, l'administration Biden, qui elle envisage bien le retour de Gaza sous l'égide de l'autonomie palestinienne. Ce que Benjamin Netanyahu n'a pas dit, c'est qu'est-ce qu'on mettrait à la place. Il a dit surtout ce qu'on ne mettrait pas. Il refuse par exemple aussi une présence militaire internationale ou des casques bleus de l'ONU. Donc il a refusé tout ça. Quel genre de régime envisage-t-il pour Gaza après la guerre? Ça n'a pas été vraiment clair. Je suppose qu'il envisage un régime local, c'est-à-dire une élite peut-être gazaoui qui prendrait le pouvoir, une élite modérée bien sûr, gazaoui qui prendrait le pouvoir et qui serait prête à travailler et négocier avec les Israéliens.
Alors, le chancelier allemand Olaf Scholz, lui, a déclaré qu'il ne voulait pas appeler un cessez-le-feu immédiat parce que cela laisserait le temps au Hamas la possibilité de récupérer et de se procurer de nouveaux missiles. Le Hamas a encore beaucoup de ressources?
Oui, il a malheureusement encore beaucoup de ressources. N'oublions pas que nous n'avons pas encore véritablement nettoyé le sud, même si le nord est déjà étranglé. Il reste des ressources au sud, mais même dans le nord, ça va prendre encore plusieurs semaines pour vraiment bien nettoyer. Alors, il y a des rampes de lancement dissimulées sous des maisons, dans des vergers que le Hamas n'a même pas encore utilisé, parce que lorsque le Hamas utilise une rampe de lancement et fait un tir vers Israël, eh bien la rampe de lancement est repérée et aussitôt détruite. Donc il est obligé de garder cachées certaines munitions et certaines rampes de lancement pour les étapes suivantes de la guerre, peut-être aussi pour un baroud d'honneur à la fin, lorsqu'il sera acculé à la défaite. Et donc beaucoup de patience, il y aura encore la possibilité de tir de missiles vers Israël. Et on découvre, on doit bien le reconnaître, un arsenal effarant d'armes dans toutes les commandements, les salles de commandement du Hamas qu'on investit. On découvre beaucoup, beaucoup d'armements. Le Hamas est extrêmement bien armé, extrêmement bien équipé.
Alors nous avons évoqué la situation du Hamas et de Gaza. Au moins 14 civils ont été blessés, dont un grièvement lors d'une attaque au missile guidé anti-char menée par le Hezbollah depuis le Liban hier. Quelle est la situation à la frontière avec le Liban, Raphaël Jérusalem?
Alors, à moins qu'il s'agisse d'esbrouf, de poudre aux yeux, ça donne tous les signes qu'il se prépare à frapper d'une façon beaucoup plus forte et décisive que ce qu'il n'a fait jusqu'à présent. On voit qu'il y a une évacuation de toute la zone frontalière avec le Liban, l'évacuation des civils israéliens. On voit que des messages ont été envoyés à la population civile libanaise pour évacuer, vraiment les mêmes messages qu'on avait envoyés aux Gazaouis. On s'en envoyait aux habitants du Sud-Liban. Et donc, tous les signaux sont là, montrant que quelque chose se prépare pour frapper le Hezbollah, car pour l'instant, on le constate, nous n'avons aucun effet de dissuasion. Monsieur Nasrallah décide allègrement de tirer autant de missiles qu'il le veut sur Israël, ou de missiles anti-tank. Et donc, nous n'avons aucun effet de dissuasion sur lui pour l'instant. Il va falloir frapper plus fort pour effectivement essayer au moins de repousser la présence du Hezbollah au nord de la rivière Litani, qui est en fait pour faire une zone tampon démilitarisée, comme le spécifie la résolution 1701 des Nations Unies, car sans cette zone démilitarisée, on ne peut pas demander décemment aux habitants évacués du nord d'Israël de revenir chez eux à la maison.
Et pour finir, Raphaël Jérusalmy, les outils du Yémen dans tout ça?
Les outils Yémen, c'est quand même avant tout le problème des Américains et des Saoudiens. On espère quand même qu'ils vont faire quelque chose. Comme Gaza n'était pas que notre problème, il était par exemple aussi bien le problème des Égyptiens. Et donc, on ne peut pas tout faire. Évidemment, nous allons tout faire pour nous défendre. Nous avons pour l'instant des réussites assez encourageantes sur le plan de la défense antiaérienne, puisque notre système Arrow 3, la flèche 3, a réussi à détruire un missile outil en dehors de l'atmosphère. Donc nous avons une bonne défense antiaérienne qui est appuyée par la présence américaine en mer Rouge. Et nous pouvons évidemment faire face aussi à ce front-là, mais espérons tout de même qu'à ce moment-là, les Saoudiens ou les Américains feront aussi leur travail.
Raphaël Jérusalmy, merci pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio Judaïka.
Merci.